Chapitre 6. J'étais seul sur l'arbre au puceron. Comme des mains presque caressantes traient une vache, mes antennes, par des attouchements délicats, avaient obtenu plusieurs fois la bonne goutte sucrée et excitante. Ma gourmandise avait été excessive, et pour tout dire, je crois bien que j'étais un peu ivre. Toute la nature m'apparaissait bizarre, gaie et grotesque, remuée de gestes gauches et hilarants. Je fus très amusé quand j'aperçus, lointaine encore, mais si rapide, sinueuse et vertigineuse, comme un drôle d'éclair qui ramperait, une colonne de fourmis énorme et rouge. D'une course qui était presque une danse, je me précipitais dans le nid. À l'entrée, je rencontrai Hannibal. Mes antennes lui parlèrent lourdes et contentes. « Quel bonheur ! On va se battre ! Les Amazones arrivent !»« Malheur, malheur !» dirent ses antennes affolées. Elle grimpa sur le cratère, revint en hâte. « Malheur à nous ! » reprit-elle. « Vite, vite, fermons la ville !» Aidée de quelques camarades qui se trouvèrent là, nous fîmes une première barricade avec des matériaux écroulés du cratère. Derrière se plaça un de ces soldats dont la tête cylindrique ferme si exactement les défilés. On en mit d'autres aux points les plus étroits de toutes les galeries supérieures. On transporta au dernier souterrain, eux, larves et nymphes, et dans l'angoisse d'assiégés qui ne peuvent même pas voir les assiégeants, nous attendîmes. Aristote s'impatientait. Elle proposa de rouvrir la galerie de la chenille, de faire une sortie et, attaquant à l'improviste les derrières de l'ennemi, de le mettre en déroute. La motion n'eut aucun succès. Hannibal et ses compatriotes déclarèrent que ce serait courir inutilement et inévitablement à la mort. D'après elle, il n'y avait qu'à attendre. Peut-être l'ennemi ne parviendrait-il pas assez vite à forcer les défilés successifs. Et s'éloignerait-il pour la nuit? Dans ce cas, immédiatement, il faudrait nous exiler, car maintenant que les Amazones connaissaient notre nid, elles reviendraient l'attaquer tant qu'il y resterait une nymphe, une larve ou un œuf. Si, comme c'était malheureusement probable, les esclavagistes pénétraient jusqu'à nos dernières retraites, il ne nous resterait qu'à fuir en emportant nos enfants. Nous laisserions les provisions afin qu'un grand nombre de nous puissent, libres, retarder la poursuite. Et plus tard, quand les brigands se seraient désintéressés de ce nid sans nymphes, nous reviendrions, prudemment, furtivement, chercher notre blé. « Elle force toutes les portes !» dit Hannibal. La galerie de la chenille fut ouverte. Des ouvrières prirent les nymphes, les œufs, les larves, et l'exode commença. Nous sortîmes toutes avant l'arrivée des Amazones. Les fourmis chargées se réfugièrent dans le nid creusé par Hannibal et ses compagnes, s'y barricadèrent solidement. Je restais aux abords de la cité envahie, avec la troupe qui devait se sacrifier pour faire gagner du temps à nos amis. Mais j'eus une idée dont je suis encore aujourd'hui très fier. Après avoir fermé de dehors la galerie par où nous avions fui, j'avançai jusqu'au cratère pour voir si des Amazones restaient hors de la ville. Tout était dans la fourmilière. Nous fîmes écrouler le cratère sur l'entrée et nous chargeâmes cette ruine d'une lourde pierre. Je courus annoncer cette opération. Hannibal fut très heureuse. « Elles sont si bêtes, dit-il. Elles vont chercher, évidemment, dans les galeries indéfiniment vides, mais plus elles dormiront où elles se trouveront. À demain seulement, après avoir longuement constaté qu'il n'y a pas d'enfants à voler, elles se préoccuperont de sortir. Profitons du répit pour nous éloigner avec notre famille. » « Ici, nous sommes trop près, nous serions sûrement découvertes. » Il fut très difficile de nous décider à ce nouvel exil. Tout à l'heure, du moins, en quittant l'ancien nid, nous savions vers quel abri nous nous réfugions. D'ailleurs, nous restions sur notre territoire, près de nos champs, près de l'arbre aux pucerons, au milieu de tout ce pays auquel nous étions attachés comme des filles à leur mère et à la fois comme des mères à leurs enfants. Car ces lignes, ces couleurs, ces odeurs, ces sonorités avaient formé notre esprit. Et notre esprit, avec nos mandibules, instruments frêles mais nombreux et patients, l'avait transformé. Quitter ces lieux familiers auxquels nous étions adaptés et que nous avions adaptés à nous, n'était-ce pas, en quelque sorte, perdre la lumière même et l'odorat et la volupté d'entendre et le frémissement heureux de toucher, puisque nous ne rencontrerions plus que des objets étrangers, blessants, d'inconnus, hostiles et effrayants, comme ces formes vagues entrevues dans les ténèbres. La raison, cependant, l'emporta. La retraite fut organisée savamment. Hannibal, qui connaissait mieux les environs, marchait en avant, sans fardeau pour que rien ne troublât son sens de la direction. Quelques soldats l'accompagnaient, les mandibules prêtes au combat. La longue colonne des ouvrières chargées suivait entre deux rangs de soldats. Au milieu d'eux, sur un des flancs, marchait Aristote. Mon exploit de tout à l'heure m'avait fait reconnaître, à moi aussi, un talent militaire. Et les troupes qui formaient l'arrière-garde m'avaient demandé de rester avec elles. Nous allions dans la nuit et dans l'inconnu, ignorant si nous marchions vers une nouvelle patrie à créer ou vers la mort. Souvent, on s'arrêtait pour attendre le retour d'éclaireurs lancés dans toutes les directions. Toujours, ils revenaient annoncer que des fourmilières occupaient le voisinage et nous reprenions, en détour prudent, notre marche d'angoisse. Hélas, notre crainte devenait de plus en plus certitude. Le jour viendrait avant que fût trouvé l'emplacement propice à la nouvelle cité. Le jour viendrait, brutal, éclairé pour d'autres, notre misère. Découvrir à des yeux ennemis, à des yeux avides, la fuite de la pauvre proie que nous étions. Changer notre marche inquiète dans la peur en une marche horrible qui verra on ne sait quoi à travers des combats. Il vint en effet le jour méchant. L'aube, hésitant sourire d'ironie, mais qui va grandir peu à peu en rire assourdissant, en tonnerre de rire cruel, nous surprit comme nous descendions une pente roide, où de temps en temps un porteur à bout de force laissait échapper, laissait rouler parmi les meurtrissures une larme impuissante et douloureuse. Les bruits du matin se levaient. On sentit la prudence excessive de cette course à travers les hostilités éveillées. On campa comme on put, dans une clairière étroite, entourée d'herbes sèches et sur les pieds. Au centre, on disposa, eux, larves et nymphes. Tout cet avenir, fardeau du présent. Les plus petites ouvrières restèrent auprès de ces futurs vivants, dont la mort préventive est exigeante comme une vie d'infirme. Des soldats restèrent aussi, prêts à repousser les attaques. Un cordon de sentinelles surveilla tous les abords de la clairière. Le reste des fourmis parcourut par bandes nombreuses la forêt de hautes herbes, cherchant de quoi manger, cherchant de quoi rapporter à manger à celles qui restaient. Quelques heures passèrent sans autre mal que l'attente de tous les maux. Peu à peu, on reprenait confiance. Déjà même, on se demandait si on n'allait pas, malgré l'inquiétant voisinage de Denis, creuser en ce lieu la nouvelle cité. Mais tout à coup, des sentinelles accoururent, annonçant l'arrivée des Amazones. Alors les ouvrières reprirent leur charge et précipitèrent leur fuite au hasard. Se laissant entraîner à l'invitation de la pente, elles se hâtaient vers le lointain vallon. Les soldats restèrent pour combattre. Rapide et épouvantable combat. Je n'avais encore vu de bataille que contre des corps plus faibles que nous, de force égale. Les Amazones nous étaient vraiment trop supérieures. Nos mandibules glissaient impuissantes sur leurs cuirasses chitineuses, tandis que leurs glaives recourbés entraient d'un air mouvement dans les têtes, tuaient à chaque coup, se dégageaient avec une adresse étonnante pour infatigablement recommencer le geste meurtrier. Nous fûmes très braves. Personne ne recula. Des héroïsmes s'émerveillèrent. Telle de mes sœurs, coupée en deux, privée de son abdomen et d'une moitié de son thorax, se soulevait obstinée sur les deux ou trois pattes qui lui restaient et continuait de frapper de ses mandibules trop faibles. Maillance inutile, hélas. En un rien de temps, notre centre était forcé et l'irrésistible colonne rousse atteignait nos porteurs. Alors, ce fut une indescriptible mêlée. Chaque Amazone tuait une ouvrière, prenait le fardeau de la morte, s'enfuyait. Nous nous jetions sur les spoliatrices, nous essayions de leur arracher leur proie, et quelquefois nous y réussissions. Il nous arrivait aussi de bondir sur le dos d'un de ces grands barbares et de couper son horrible tête rouge. Je crois que si nous avions su où nous réfugier, nous aurions sauvé une bonne partie de la future génération. Mais nous n'avions aucun but. Nous luttions contre un danger et si nous échappions, c'était, nous le savions trop, pour fuir vers d'autres dangers, moins brutaux de n'être point encore présents, mais plus affolants d'être inconnus. Une grande pluie survint qui termina le combat, hâta notre fuite vers le vallon, la fuite des brigands vers les hauteurs. C'est en bas seulement, au bord de la rivière, que nous nous arrêtâmes. Nous essayâmes, sous la verse, de reconnaître nos pertes. Mais bientôt il nous fallut songer à lutter contre un nouvel ennemi. Nous étions assiégés non plus par des vivantes, mais par un élément. L'eau du ciel tombait toujours lourdement sur nous, blessures innombrables. Et voici que la rivière montait menaçante, et voici que toute la pente ruisselait et devenait un torrent qui tout à l'heure sans doute nous emporterait. Plusieurs fourmis se livraient au même mouvement que lorsqu'elles avaient bu trop de miel de pucerons. Leurs gestes ivres disaient avec une éloquence désespérante que leur raison n'avait pu résister aux coups trop répétés du malheur, aux menaces trop pressées du danger. Nous prîmes ces affolés et la seule femelle qui nous restait et le peu de nymphes, de larves et d'œufs que nous avions sauvés. Nous fîmes de ces pauvres êtres comme un noyau autour duquel nous nous serrâmes en boule. Comme on goudronne un vaisseau, chacune de nous sécréta le plus possible d'acide formique. Puis, radeau vivant et angoissé, mais rideau sans fente et que l'eau ne pénétrera point, nous le laissâmes entraîner au courant. La pluie cessa. Nous arrivions à un confluent. La lutte des deux rivières grossit nous jeta vers le bord. Nous sentîmes un choc. Aussitôt, en moins d'une seconde, la boule se désagrégea. Chacune de nous étira ses membres engourdis, secoua ses antennes lasses d'immobilité, se sauva plus loin de l'eau. Puis on essaya de se rendre compte des ressources et des dangers de l'endroit où l'on était. Hélas, nous n'étions pas à terre. Nous étions sur un arbre qui devait ordinairement occuper la rive, mais que l'eau en ce moment entourait. Ses branches inférieures s'inclinaient, lourdes de boue, d'herbes et de rameaux étrangers. Nous regardions stupides l'eau qui ne baissait pas, et nous songions que nous allions sans doute mourir de faim. Le soleil se coucha, bien peu d'entre nous dormirent. Plusieurs restèrent au bord de l'eau, le bout des premières pattes frôlant la rivière, pour la sentir décroître, pour goûter à petits coups répétés l'espoir de la délivrance. Elles n'eurent guère à se déplacer pour suivre le lent abaissement. Le soleil se leva. Nous nous mîmes à fouiller tous les recoins de notre arbre, cherchant quelques insectes à dévorer. Maigre chasse, et qui ruina pour un seul repas insuffisant toutes nos ressources. Nous n'avions plus maintenant qu'à attendre, attendre que les choses consentent enfin à nous délivrer, ou que leur obstination nous tue. Des jours passèrent, on commença à mourir en regardant l'eau qui baissait si lentement. Quelques camarades dévorèrent les premiers cadavres et furent blâmés universellement. Mais les cadavres du second jour de mort furent partagés entre tout le peuple. On mangea aussi les œufs, les larves et les nymphes. Le troisième jour, on trouva les cadavres trop rares et on se battit autour pour avoir son morceau. Le quatrième jour, on tua pour manger. Plus voisine de la rive, des îles d'herbes fangeuses émergeaient de plus en plus nombreuses, de plus en plus rapprochées, tremplin d'où, jusqu'à la terre ferme, nos espoirs obstinés rebondissaient. Deux journées interminables, deux journées de faim et de crime, passèrent encore avant qu'à travers mille pièges gluants, il fut possible de gagner le bord. Le danger passé, ce fut un attendrissement général. Tous ces êtres qui, hier, songeaient à se dévorer, qui guettaient la seconde d'inattention ou de faiblesse où ils pourraient se jeter sur le voisin, le tuer pour ouvrir son enveloppe chitineuse et manger sa chair, tous ces êtres, maintenant, s'aimaient, se caressaient, se chantaient des musiques tendres et mélancoliques. Après le premier choc de la joie, nos inquiétudes revinrent. Comme nous étions peu nombreuses, combien étaient mortes dans le combat contre les Amazones? Combien s'étaient égarées dans la fuite, noyées probablement? Et si un miracle les avait réservés à une autre mort, dispersés, proie qu'on ne pouvait secourir, séparés de notre aide par l'immensité de la rivière? Combien étaient mortes de faim sur l'arbre? Et combien, ô honte, avaient succombé au coup de leurs sœurs affamées? Pertes irrémédiables. Des enfants ne viendraient pas, incertains et charmants comme l'espérance, remplacer les disparus. Nous avions dévoré nous-mêmes, eux, larves et nymphes. Notre dernière pondeuse était morte sur l'arbre de la faim. Nous étions un peuple sans force et sans avenir. Nous n'étions plus que l'agonie d'un peuple. Aristote affirmait, irréductible, que notre nation vivrait. Il fallait seulement ne pas se décourager, choisir avec prudence l'emplacement du nouveau nid, et attendre, et vivre obstinément. À l'époque de la fécondation, on guetterait avec soin et on recueillerait quelques femelles égarées. Oui, mais comment attendre? Comment traverser sans provision la pauvreté de l'hiver? Quand reviendrait le sourire tardif du printemps, la faim aurait-elle épargné une seule d'entre nous? Mais Aristote gourmandait notre lâcheté. Certes, avouait-elle d'un air de dédain, nous serions pauvres. Certes, nous souffririons. Mais à force de travailler d'ingéniosité, nous trouverions le nécessaire, Il fallait d'abord ébaucher la ville, qu'on achèverait plus tard. Puis, avant les premiers froids, chercher, glaner, engranger. Pendant l'hiver même, on ferait de fructueuses expéditions souterraines. On traquerait dans le refuge les insectes endormis. Enfin, affirmait-elle, les obstacles qui paraissent les plus invincibles à la stupeur première s'abaissent comme d'eux-mêmes sous l'effort actif, persévérant, indéfectible d'une courageuse volonté de vivre. Et elle vantait, hautaine, la vie difficile, la déclarait belle comme une bataille sans trêve et continuellement victorieuse. Hannibal disait les mêmes paroles vaillantes, et l'une après l'autre, sans conviction, sans plaisir, uniquement parce que dans notre stupeur, dans notre accablement, comme endormi, leur discours éveillait de vieilles habitudes machinalement actives, nous nous mîmes à la besogne. Le lieu de la future patrie fut choisi, mauvais, perdu dans un pays de famine, mais pour cette raison même, éloigné de toute fourmilière, dépeuplé de rôdeurs carnassiers où notre faiblesse serait à l'abri des attaques. Nous allions commencer à creuser lorsqu'un homme vint, se pencha sur nous. Point de nid où s'enfoncer, peu d'herbe et couché sur le sol comme sur une tête d'homme de rares cheveux mouillés. Or, l'horrible montagne qui marche sur deux pieds nous saisissait l'une après l'autre et nous enfermait dans une prison de verre. Nous étions trop faibles, trop las, trop découragés pour nous émouvoir beaucoup d'un nouveau malheur. Nous étions devenus, sous les coups répétés du destin, des proies indifférentes et immobiles. Seuls Aristote et Hannibal parurent, dès le premier moment de captivité, éprouver une vive douleur. Mon cerveau gauche essaya de deviner ce que cet homme voulait de nous. Je ne sais pas pourquoi, mais je supposais qu'il nous ferait dévorer par des poules. Et je me réjouis presque, comme un homme ruiné qui rencontre une occasion de jouer. Si j'échappais au bec meurtrier, je trouverais facilement ma vie dans la basse-cour. Mes suppositions étaient fausses. L'homme nous transporta dans une grande pièce fermée et presque vide. Il y avait seulement, je me suis rendu compte de ces détails plus tard, et surtout depuis que j'ai repris la forme humaine, une chaise et une table ronde. Sur la table, un meuble étrange, une boîte plate, composée d'un châssis de bois, que fermaient hermétiquement deux feuilles de verre. L'homme s'assit, il ouvrit le châssis, puis la prison où il nous avait mise d'abord, et qui était une grande éprouvette. Il nous fit tomber dans le châssis qu'il referma. Inquiètes et curieuses, nous courions autour de notre prison nouvelle. Au milieu d'un côté, une petite ouverture me permit de sortir, et presque tout le monde me suivit. Nous nous trouvâmes sur le bois de la table. Il y avait des vivres. On les dépassa sans y toucher. Curiosité et désir de liberté l'emportèrent sur la faim, qui pourtant commençait à être vive. Le bord de la table n'était pas loin. Tout à l'heure, je passerai dessous, je fuirai le long du pied, je me cacherai dans quelque interstice du plancher ou dans un trou du mur. Justement, l'homme venait de sortir, et à son retour, je serais invisible. Je rencontre, sur la table encore, un inexplicable fossé plein d'eau. Longtemps, je le longe. Mais je ne me trompe pas, j'ai déjà passé ici. Mais me suis-je égaré et, sans m'en douter, suis-je revenu sur mes pas? C'est bien invraisemblable, puisque je ne porte aucun fardeau. Mais alors, Je frissonne et je n'ose penser avec précision ce qui me fait frissonner. Je continue ma course, toujours dans le même sens. Me voici de nouveau au point déjà reconnu. Oui, le ruisseau est circulaire. Je grimpe sur le châssis, je me dresse sur les pattes postérieures et je constate d'un regard l'exactitude de l'horrible conclusion. Et tandis que mon cerveau droit se désole, mon cerveau gauche s'amuse et me compare, le pédant, aux hommes du temps d'Homère enfermés sur la terre par le cercle du fleuve Océan. Aristote et Hannibal arrivent auprès de moi. Elles aussi viennent de comprendre. Elles regardent avec terreur ce que je regarde. D'autres les suivent, puis d'autres et d'autres encore. Bientôt nous savons toutes qu'il n'y a aucun espoir d'échapper à la cruelle montagne qui marche sur deux pieds. « Je ne comprends rien à tout ceci, me dit Aristote. Mais que nous veut cette montagne qui marche sur deux pieds? Pourquoi nous enferme-t-elle en cette étable et nous fournit-elle de la nourriture? L'acide formique lui serait-il précieux, comme à nous la liqueur de puceron? Bon, je ne pense pas, répondis-je, que l'acide formique lui soit agréable. D'ailleurs, nous méprisons comme trop petites certaines espèces de pucerons. Nous serions pour ce géant un bien minuscule troupeau. Alors, dit-elle avec désespoir, il veut nous manger? Pas davantage. Son odeur nous est insupportable. Notre odeur doit lui déplaire. Allons donc, il sent mauvais et nous sentons bon. Mais nous sentons mauvais d'après les antennes de la fourmi étrangère qui sent mauvais pour nous. De même, je crois que cet être dont l'odeur nous gêne n'aime pas notre odeur. Aristote réfléchit un instant, comme frappé de mon raisonnement. Mais bientôt ses antennes eurent un tremblement analogue à votre rire, et elle affirma avec conviction « Ce que tu viens de dire est trop subtil pour être vrai. » Je repris, ce que cet homme veut de nous, je crois le savoir, et cette science me rassure. Nous souffrirons d'être captives, mais il ne nous fera aucun autre mal. Il nous donnera à manger et nous soignera de son mieux, sans songer à dévorer notre chair ni à nous voler notre acide formique. Elle protesta, folle, mais s'il était à ce point ami des fourmis, il ne nous enfermerait pas. Il ne nous eût pas capturés, mais, voyant notre détresse, il nous eût apporté des provisions en nous laissant jouir de l'herbe et du ciel. Je répliquai, je n'ai pas dit qu'il fût ami des fourmis. J'ai dit seulement qu'il nous soignerait le mieux possible. Mais pourquoi, que peut-il vouloir de nous? Mais il veut voir comment nous vivons, étudier nos actes, deviner notre intelligence, essayer de connaître une autre vie que sa vie. Aristote eut un geste d'orgueil. « Oh, tu lui prêtes, dit-elle, une pensée bien puissante. La fourmi est le seul animal intelligent, et pourtant jamais encore elle ne s'est livrée à de telles études. » Je secouai les antennes railleuses. « Chaque animal se croit le seul intelligent. » « Allons donc, la fourmi acceptée nulle animal n'a même l'idée d'intelligence. Ton homme est-il capable de creuser un terrier ?»« Ses yeux pauvres aiment la lumière et il n'habiterait pas volontiers des demeures souterraines. Mais comme nous construisons des abris le long de nos routes, il se bâtit des maisons proportionnées à sa taille. » Dans un coin d'une case de sa maison, celui qui nous a capturés a pu jeter, moins encombrante qu'un grain de blé dans un de nos greniers, la prison qui enferme tout notre peuple. Aristote s'écarta de ce point douloureux. Je sais, oui, dit-elle, qu'il coupe le blé et l'entasse en montagne, qui ensuite disparaissent. Puisque nous ignorons ce que deviennent ces provisions, tu peux soutenir, sans invraisemblance trop vive, qu'il les recueille en des granges. Mais quand le pays n'est pas riche spontanément, sème-t-il comme nous? Les pays qui nous semblent féconds d'eux-mêmes sont fécondés par lui. Et si nous pouvons d'ordinaire nous contenter de moissonner, c'est parce qu'il sème tous les ans. Mais tu te moques de moi? A-t-il comme nous des pucerons qui lui donnent à boire et pour les protéger, construit-il des étables? Oui, seulement ces pucerons sont énormes et n'ont pas d'ailes. Les hommes ont-ils comme nous le génie militaire? Savent-ils marcher en colonne, serrés contre l'ennemi? Ont-ils la science des mouvements tournants et la ruse des diversions? Auraient-ils jamais songé, comme moi, à rouvrir la galerie de la chenille pour surprendre les envahisseurs? Auraient-ils, comme toi, fait écrouler le cratère sur l'entrée pour dérouter les Amazones? Quelques hommes ont le génie militaire. Auraient-ils, comme nous, attiré l'attention des propriétaires des pucerons sur une attaque lointaine, tandis qu'une partie des nôtres s'emparait du bétail? Beaucoup d'hommes sont habiles à s'approprier le bien d'autrui. Mais l'homme est incapable d'une œuvre collective à laquelle plusieurs collaborent volontairement sans que personne force n'y soit forcé. Oh, sur ce point, il nous est inférieur. Il y a chez lui, comme chez les fourmis amazones, des êtres qui travaillent et d'autres qui ne font rien. Et ceux qui ne font rien commandent à ceux qui travaillent. Le fait est d'autant plus indigne que maîtres et esclaves, ici, appartiennent à la même espèce et le plus souvent au même peuple. Mais plusieurs hommes peuvent, comme plusieurs fourmis, collaborer. Je reconnais cependant une autre infériorité humaine. L'idée d'ensemble de l'œuvre n'existe pas toujours dans l'esprit de chaque ouvrier, mais souvent n'est conçue que par un chef qui dirige du dehors des mouvements subordonnés et non coordonnés. Tu soutiens donc qu'il existe un petit nombre d'hommes intelligents, mais tu viens d'avouer que tous sont incapables d'affection pour leurs semblables. Ah, ils sont, eux aussi, des animaux mêlés de bien et de mal, et il arrive à un homme d'avoir de l'amitié pour un autre homme. Mais son affection ne dépasse sûrement point, comme la nôtre, la limite de la mort. Seule la fourmi a de pieux cimetières, voisins de sa demeure où elle peut protéger les cadavres contre les mangeurs de chair et les laisser sécher paisiblement au soleil. Les chairs de l'homme trop abondantes ne se dessèchent point après la mort, mais deviennent une boue infecte. Mais les survivants ferment soigneusement le cadavre frais dans une case, d'une sorte de vaste fourmilière souterraine. Mais la fourmi a un langage. L'homme parle aussi. Imbécile, montre-moi ses antennes. J'essayais d'expliquer que l'homme s'exprime surtout par des sons. Mais Aristote se moqua. Allons donc, c'est un être de silence. Je n'ai jamais entendu une musique venir de lui. Sa musique est trop forte pour nos tibias. Trop forte? Mais quelle est cette absurdité? Quand nous entendons un bruit, si ce bruit vient à doubler, nous l'entendons deux fois plus. Pas toujours. Tu entends le bruit de tes dents qui coupent un dépit. Et quand l'homme, avec la grande mandibule artificielle dont il allonge ses pattes, coupe 100 épis, tu n'entends rien? Tu entends le pas d'une fourmi, mais tu n'entends pas la marche de l'homme lourd. Mon amie réfléchit un instant, puis elle accorda. Tu as des idées singulières, dont quelques-unes pourraient bien être vraies, mais tu pars d'une observation plausible pour rêver des folies maladives. Il n'est pas absolument impossible, oui, que cet être émette des sons inentendus de nos tibias. Mais combien le fait reste vraisemblable. D'ailleurs, nous savons la pauvreté du langage des sons qu'il ne peut articuler. Et puis, vraiment, quelle apparence que cette masse lourde et informe parle, pense et est une âme. Ah, elle en a une pourtant. Et tandis qu'elle s'émerveillera de quelques-uns de nos actes, tu t'étonneras de tel de ses gestes. Oui, dit-elle songeuse, les êtres inférieurs ont parfois des éclairs bien extraordinaires. Ainsi, l'autre jour, un puceron. Mais l'homme revenait. Notre conversation philosophique cessa et nous regardâmes. L'homme ouvrit notre prison, y déposa de la terre. Puis il s'assit et nous considéra. Il veut, dis-je à Aristote, que nous fassions notre nid devant lui. Oui, peut-être, son intelligence s'éveille, et il désire apprendre de nous l'art de bâtir. Mais il ne verra rien. Nous allons d'abord couvrir d'une couche de terre cet étrange mur transparent. Il est plus habile que tu ne crois. Notre prison est étroite. Si nous procédons comme tu dis, il ne nous restera plus assez de place. Nous sommes obligés d'accepter pour paroi de quelques-unes de nos cases le mur infranchissable et transparent. Il nous verra travailler. Les antennes de mon ami eurent d'abord un frôlement léger comme un murmure. Il y a des hasards étonnants et qui ressemblent à des prévisions. Mais elle reprit aussitôt, affirmatrice, dédaigneuse. Je ne suis pas du nombre des naïfs que trompe la bizarrerie de telles rencontres. Je sais trop bien que cet être n'est pas intelligent, que cet être n'est pas une fourmi. Sous l'œil observateur, nous reconstruisions notre nid. Quand l'homme s'éloignait, il avait soin de recouvrir le verre d'un écran opaque. « Vois-tu, disais-je à Aristote, il sait que nous aimons l'obscurité chez nous, et il nous la procure dès qu'il n'a plus besoin de nous regarder. Il n'est pas méchant. » Elle répliquait, « Tu expliques tous les hasards heureux comme des preuves d'intelligence. » Puis elle triomphait. S'il était aussi intelligent que tu le soutiens, et s'il avait le projet d'étude que tu lui prêtes, il comprendrait, voyons, qu'il nous met dans une situation anormale où nous n'agirons point comme dans la vie ordinaire. Il comprendrait que sa façon d'étudier déforme l'objet même de son étude. L'objection était forte. J'essayais d'y répondre, mais Aristote, sans me laisser achever, comment, par exemple, connaîtrait-il notre ingéniosité et notre activité à conquérir la nourriture puisque nous la trouvons sans peine aux abords de notre nid? Mais il nous verra engranger le blé. Qui sait d'ailleurs si plus tard il ne nous le fera pas gagner? Mais comment a-t-il choisi une nation incomplète, sans femelles, sans nymphes, sans larves, sans œufs? Il ignora le plus intéressant de nos mœurs, ne saura jamais quelle famille unie nous sommes dans l'existence normale, quel peuple tendu vers l'avenir. L'homme reparut. Sur la table, il versa un tas de terre où se trouvaient mêlés des œufs, des larves et des nymphes. L'imbécile, dit Aristote, cet avenir n'appartient même pas à notre espèce. S'imagine-t-il que nous allons faire éclore des étrangères? Nous transportâmes la terre dans notre nid. Le reste fut d'abord dédaigné. Mais Hannibal, passant par là, cet avenir est d'une puanteur. Rapidement, nous jetâmes dans le fleuve qui nous entourait ces êtres qui n'étaient pas encore et qui déjà sentaient mauvais. Un instant, sur un point, le fleuve fut comblé. Nous essayâmes de le traverser. Mais l'homme, d'un doigt brutal, nous saisit, nous rejette dans la cour de notre prison. Puis, d'un seul geste, il déplaît le large fossé, lance au loin les malheureuses nymphes que nous avons refusé d'adopter. L'homme se détourne, prend quelque chose, le pose sur la table. Ce sont deux femelles d'Aphoenogaster Barbara et deux femelles d'Amazone. Aristote introduit dans le nid les pondeuses de notre race, tandis qu'Hannibal conduit l'assaut contre les deux géantes. Les premières attaques naïvement directes ne réussissent pas. Plusieurs d'entre nous tombent, la tête broyée entre les puissantes mâchoires. Tout en me tenant hors de la portée des crocs meurtriers, je me jette sur une antenne de la plus forte géante. Je serre solidement l'extrémité entre mes mandibules. Je suis les mouvements de l'ennemi, reculant quand il marche sur moi, avançant quand il recule pour se dégager. Un camarade a saisi la seconde antenne. D'autres prennent les pattes, les allongent. L'Amazone maintenant est couchée, immobilisée, sur le ventre. Voici qu'Hannibal chevauche son dos. Les mandibules d'Hannibal, comme des ciseaux qui mordent un objet résistant, plusieurs fois autour du cou s'ouvrent et se referment. Enfin, mon effort contre une résistance morte me fait faire deux pas en arrière. Le cou est coupé. Je regarde l'autre Amazone. Elle vient de subir le même sort que sa compagne. L'homme est là, assis, qui hoche la tête d'un air approbateur, s'étonnant de notre habileté ou se réjouissant d'un résultat prévu. Aristote me dit « Ben, j'observe avec grand soin cette montagne qui marche sur deux pieds. Et encore que rigoureusement tous ces actes soient explicables par de simples instincts, je veux bien lui reconnaître quelques lueurs d'intelligence. Mais que de choses lui manquent pour être l'égal d'une fourmi. » Je l'interrompis. Je n'ai jamais prétendu que l'homme fût l'égal de la fourmi. Mais tu le méprises trop et tu nies la plus grande partie de ses richesses. Elle me fit remarquer qu'il vous manque la plupart des sens. Je fus obligé d'avouer que l'observation était exacte. Mais bientôt son énumération de vos pauvretés dépassa les limites du vrai. « C'était très sourd, » affirma-t-elle. « Qu'en sais-tu ? » Mais je l'ai soumis à des expériences absolument concluantes. J'ai joué devant lui les musiques les plus étranges. Mes pattes ont battu le sol de façon à produire des bruits inquiétants. Et jamais ses pattes de devant ne se sont tendues dans le mouvement de celui qui écoute. Les sons qui dépendent de nous, et même tous ceux que nous pouvons entendre, sont trop faibles pour lui parvenir. Bon, « Ceci est plausible, » reconnut Aristote. « Mais jamais, dans aucun cas, ses pattes antérieures n'ont fait le geste d'écouter. » Je dis, « Regarde comme il tient singulièrement sa tête en ce moment. Je crois bien qu'il écoute quelques bruits très faibles pour lui, trop énormes pour que nous puissions le soupçonner. Tu crois ? Les organes qui lui permettent d'entendre ne sont pas dans ses pattes. Ils forment des deux côtés de sa tête de lourds et barbares ornements. Vois-tu ces énormes excroissances si grossièrement découpées ? » Aristote m'interrompit furieuse. « Oh, tu ne peux pas dire deux phrases sérieuses. Ton amour du paradoxe t'entraîne aux absurdités les plus inconcevables. » Et elle recommença à énumérer les pauvretés de cet être vaste et misérable, si lourd, si mal dessiné, et sauf par devant, aveugle de tous les côtés. Veux-tu, Aristote, faire taire un instant ton orgueil de fourmi ? Je te dirai sur l'homme, sur ses véritables pauvretés, sur ses richesses insoupçonnées, des choses vraies et merveilleuses. Me parle. En ce moment, cet être commet envers nous les mêmes injustices que tu commets envers lui. Lui aussi, il nous méprise. Le présomptueux imbécile. Ou plutôt, ce qui est plus injurieux, il admire celles de nos facultés qu'il possède aussi. S'étonne que nous, qui ne sommes pas des hommes, nous puissions montrer quelques lueurs d'intelligence. Tu lui supposes une sottise bien excessive. Je le crois, surtout aveuglé par un orgueil absurde, par le même orgueil qui t'empêche de bien voir. Mais elle, dans un sursaut. Mais il n'y a pas d'orgueil à savoir que la fourmi est le seul être doué de raison. Regarde. La porte s'ouvre. Un autre homme entre. Ils font des gestes. Sûrement, ils parlent de nous. Et en recueillant les paroles, je crois savoir leurs paroles. L'observateur dit « C'est étonnant comme ces petites bêtes sont intelligentes. Le croiriez-vous? Elles font ceci, elles font cela. » Et le camarade répond « L'instinct suffit à expliquer tous ces actes. » « Non, reprend l'observateur, je vous assure qu'elles ont quelque intelligence. » Mais il ajoute aussitôt prudent « Rien de comparable, assurément, à l'esprit de l'homme. » L'homme est le seul animal doué de raison. Tu as des façons de penser bien inquiétantes. Observe-les un moment, lui dis-je. Je vais préparer quelque chose. J'ai peut-être trouvé un moyen de te faire comprendre mon sentiment sur l'homme et sur nous. Des grains de blé étaient là. J'en disposais un certain nombre de façon à leur faire dessiner deux circonférences séquentes à peu près selon la figure que voici. Je revins à Aristote et lui fis regarder mon travail. « Que signifie ceci ? » demanda-t-elle. « Je représente, lui dis-je, par le cercle de gauche, la pensée humaine et par le cercle de droite, la pensée de la fourmi. » Tu vois quelle petite partie commune présente les deux domaines? L'homme nous croit seulement l'intelligence qu'il partage avec nous, ce qui est compris à la fois dans son cercle et dans le nôtre, ce pauvre coin que je remplis de blé. Après avoir ainsi rendu la figure plus claire, je continuais. Mais ce qui est dans la partie originale de son cercle, comment le devinerions-nous? Nous savons qu'il n'a pas ceci ni cela, mais presque tout ce qu'il possède est pour nous de l'inconcevable. Chacun connaît les pauvretés du voisin et ignore presque toutes les richesses du voisin. « Bon, je sais que tu délires, déclare Aristote, mais tes folies finissent par me troubler. Alors l'univers et la pensée auraient des merveilles que nos yeux seraient incapables de voir et notre esprit impuissant à concevoir. » Cette idée, je le sais, est folle, mais je mérite qu'elle ait pu être rêvée, être exprimée. Me voici tourmenté, angoissé, pour des heures. Bon, je ne sais pas si je pourrai dormir cette nuit. Et elle supplia. Oh, mon ami, dis-moi vite que tu plaisantais, que tu n'as jamais cru ce que tu viens de me dire. J'avais dit à Aristote, les hommes sont des êtres heureux. Chez eux, personne n'a d'ailes visibles, mais chacun peut aimer. Il n'y a que des mâles et des femelles, point de ces pauvres neutres qui... Elle m'avait interrompu. Mais vois, quelle contradiction te pousse l'amour de l'étrange. Tu prétendais ces êtres intelligents. Je m'efforçais en vain d'expliquer qu'un sexe n'est pas nécessairement partout le compagnon de l'infériorité mentale. On comprend si difficilement les choses très différentes de celles qu'on connaît. Aristote répétait obstinément qu'un être sexué est livré tout entier à la folie des ailes, incapable de toute couvre pratique et de toute méditation précise. sans m'arrêter à ses objections, je lui apportais d'autres stupeurs. Mais dans cette espèce, affirmai-je, le mâle est plus grand et plus fort que la femelle. J'oserais même dire qu'il est plus beau, quand il est beau, ce qui arrive souvent dans les fourmilières peu peuplées. Car sa beauté est, si j'ose cette répétition apparente, faite de beauté. Celle de la femelle est faite de grâce et de... J'hésitais un moment, ma pensée gauche disait « Sa beauté est faite de sourire. » Mais le sourire est chose si exclusivement humaine. Mes antennes savaient comment traduire. Elles reprirent enfin « La beauté de la femelle est faite de grâce et de musique. » Aristote multiplia les railleries sur cette femelle sans ailes, alourdie par ses œufs, et que j'affirmais gracieuse et musicale. Je ne parvins pas à lui faire comprendre que la femme n'est pas une misérable pondeuse fécondée pour toute la vie par un seul geste d'amour, que son allure peut s'animer et son visage rayonner de l'espoir d'autres baisers, qu'elle ne laisse pas tomber un œuf à chaque pas, et que, enfin, s'il lui arrive de faire un enfant, l'accident est plutôt rare. Je n'essaierai pas de répéter mes autres dialogues piétinants avec Aristote, comment, par exemple, je m'efforçais de lui expliquer que l'homme distinguait trois couleurs dans notre noir, que certains rayons colorés pour nous ne parlaient point à ses organes, et que les vibrations qui donnaient des sensations à la fourmi et à la montagne qui marche sur deux pieds offraient aux deux spectateurs des spectacles tout à fait dissemblables. La seule chose que je puis lui faire admettre, c'est que l'énorme différence de taille devait modifier toutes les formes et toutes les lignes. « Oui, dit-elle, appauvri par sa hauteur et par sa masse, il doit voir bien petit les rares objets qui n'échappent pas à ses lointains regards. Il voit petites les choses que nous voyons grandes. Mais il voit normal son compagnon que nous ne pouvons embrasser d'un seul regard, et son œil sait, immobile, contenir le territoire de plusieurs fourmilières. Peut-être, dit-elle, mais quel intérêt peuvent offrir ces immensités que l'ignorance du détail lui transforme en monotone désert ? Nos conversations finissaient toujours de même. Aristote, impatienté, m'invectivait presque. Ses antennes hostiles disaient en cou rapide, « Mais tu affirmes comme des certitudes les plus folles hypothèses. Si encore tu les donnais pour des jeux ingénieux, on pourrait, tout en les souhaitant moins invraisemblables, s'amuser de leur branlante, et au moindre choc de la raison, croulante hardiesse, mais tu parles, folle présomptueuse, comme quelqu'un qui saurait. » Je manquais de courage. Je répondais la vérité, mais d'un frémissement aimablement sceptique qui la transformait en joyeux badinage. « Mais tu sais bien que j'ai été homme. » Elle s'irritait de plus en plus. « Alors cette mauvaise plaisanterie t'autorise à des absurdités excessives, même pour des suppositions de fourbis qui t'abusent et te dispensent de toute observation. Je suis vraiment trop bonne de prêter des antennes attentives à la bavarde incohérente et mystificatrice que tu es. Je ne dirai pas non plus la puérile absurdité des expériences faites sur nous par l'homme, ni les conclusions ridicules qu'il dut en tirer. Vous trouveriez ces vanités pauvres ou de semblables dans tous les livres sur les fourmis. » Notre captivité s'aggrava. L'homme eut-il besoin de la table qui supportait notre cité? Où trouva-t-il intéressant de nous enfermer davantage? Je ne sais, mais la table disparut. Le châssis qui contenait notre nid fut posé d'aplomb sur un grand verre à boire, dont le pied plongeait dans un plat rempli d'eau. Nous ne pouvions sortir que sous la cage et le long du verre. Promenade peu intéressante et qu'on n'était guère tenté de recommencer. Seulement, quelques instants chaque jour, L'entrée de la boîte se prolongeait d'une galerie en verre qui débouchait dans une cage en toile métallique où nous trouvions du sucre, du miel et d'autres provisions de bouche. L'hiver devait être venu, mais l'homme frileux maintenait une température élevée dans cette chambre où il passait une partie de sa vie, assis, penché vers notre prison, nous regardant. Notre ville trop étroite ne nous permettait pas de fuir la chaleur et nous en souffrions beaucoup. D'autre part, l'air de cet appartement était irrespirable, empesté par la violente odeur humaine. Nous nous sentions affaiblis, presque malades, et nous ne philosophions plus. Aristote était si furieuse qu'elle m'aurait battu si j'avais persisté à plaider la cause de la montagne qui marche sur deux pieds. Nous passions ces longues journées inactives et ces interminables nuits suffocantes, sans sommeil, à maudire la cruauté ou l'inconscience de notre bourreau. Un mal commença à sévir, désagréable et dégoûtant d'abord, et qui bientôt devint en outre dangereux. Parmi les animaux qui vivent dans les fourmilières se trouvent des parasites supportés parce qu'il serait long de s'en débarrasser et qu'après tout, ils ne causent aucun dommage sensible. Des acariens, il me déclait d'écrire le nom vulgaire et d'avouer que j'ai jamais eu, même en dehors de la vie humaine, des poux. Des acariens de diverses espèces se promènent librement dans nos galeries et de temps en temps s'attachent à l'une de nous pour boire une goutte de sang. Ces petits êtres vivent de peu et ne nous incommodent guère. Leur légère piqûre est un chatouillement presque agréable, pourvu qu'ils ne se renouvellent pas trop souvent. Mais dans les conditions anormales où nous vivions maintenant, les acariens se multipliaient jusqu'à former une gêne et un péril. La bouche surtout, et les antennes de la plupart de nos camarades en étaient couvertes, et je n'osais plus causer avec elles de peur d'être envahi pendant le dialogue. Il est à peu près impossible de saisir les petits acariens qu'on porte sur soi. On peut, il est vrai, demander ce service à une amie, mais presque toutes les fourmis, comme abêties par la captivité, vivaient dans une indifférence stupide. Seuls Aristote, Hannibal et moi, et deux ou trois autres, luttions contre l'ignoble envahissement. Pendant qu'Aristote nettoyait mes antennes, ma pensée gauche se représentait dans le cadre d'une porte ouverte, sur un perron écorné aux angles et rongé par les pluies, une petite paysanne et sa mère. La mère était assise sur la marche supérieure. L'enfant, plus bas, lui tournait le dos et se penchait en arrière vers le giron maternel. Les vieilles mains, couleur de terre, fouillaient, actives, dans les cheveux blonds. Le tableau, très précis dans un ruissellement de soleil et sur un fond d'ombre chaude, avait sa beauté et l'air charrié des odeurs de foin coupé. Pourtant, j'éprouvais à gauche une sorte de dégoût, tandis que mon cerveau droit jouissait d'une progressive délivrance. Quand il me fallait rendre à Aristote le même service, je m'efforçais d'éteindre mon cerveau gauche et de chasser de moi toute pensée humaine. Je n'y parvenais pas toujours, et je souffrais de la besogne que je ne pouvais pas refuser. Ce jour-là, la cage de toile métallique contenait des provisions en quantité considérable. Peut-être notre geôlier devait-il s'absenter quelque temps. Dès que nous eûmes transporté chez nous toutes ces richesses, l'homme, après avoir enlevé le garde-manger et le tube qui le faisait communiquer avec notre nid, ferma hermétiquement l'entrée de la ville et nous recouvrit de l'écran noir. Depuis longtemps, nous ne sortions plus. Nous méprisions la décevante promenade qui conduisait si vite par un si monotone chemin à une mer infranchissable. Pourtant, c'est avec fureur que nous nous vîmes enfermés. D'ailleurs, le tout était nécessaire pour jeter les déchets. Faudrait-il donc se laisser envahir par les ordures de toutes sortes ? Aristote me dit, « Cette tête que tu vantais tant est un fou bien cruel. » J'étais de l'avis d'Aristote. Mon cerveau gauche me rappelait la monstrueuse inhumanité de certains maîtres du monde et les caprices sanguinaires que les enfants assouvissent sur les animaux. Notre maître était-il un Néron sans empire et qui, puérilisé par son impuissance envers ses semblables, trompait sur le pauvre insecte sa fin de torturer? Or, voici que dans la ville fermée, on se mit à mourir. Ce fut d'abord un cadavre, puis deux cadavres, puis le soir même 10 cadavres peut-être. La présence des morts dans l'habitation est insupportable à la fourmi. Nous nous irritions à songer que nous ne pourrions nous délivrer de ces immobilités créatrices de fantômes. Non seulement nous ne pourrions les porter, pieuses, dans un cimetière bien tenu, mais nous pourrions les jeter hors de la ville. Certaines anxiétés grandissent, rapides jusqu'à la folie, poussent à des gestes de folie. Ces corps dont nous savions trop que nous ne pourrions nous débarrasser, nous les saisissions, les promenions interminablement autour de notre prison. Quand la fatigue nous forçait à les abandonner, d'autres les reprenaient aussitôt à terre et continuaient la promenade funèbre. Une force étrange nous empêchait de les laisser étendus sur le sol. C'eût été là, nous semblait-il, une acceptation définitive des effroyables présences. À la seule idée de ce consentement, des fureurs et des terreurs nous soulevaient. Chargés du fardeau macabre, nous courions sans but. Le voyage des funérailles durerait sans doute jusqu'à la mort des porteuses, mais nous ne pouvions vivre auprès de morts immobiles. Cette folie dura plusieurs jours, nous harassant toutes, nous privant de sommeil, nous agitant d'épouvante. Quand nous portions un cadavre, nous fuyions précipitamment, poursuivis par des images vagues et farouches. Et quand nous nous reposions, nous suivions les porteuses de loin, malgré un violent désir de les éviter, comme attachés à elles par un lien indénouable et entraînés par leur marche irrésistible. On mourait innombrablement. L'heure vint où chaque vivante eut son cadavre à portée. Quand la fatigue écartait nos mandibules, faisait tomber le fait funèbre, nous restions prêts, haletantes, aspirant au moment où nos membres douloureux pourraient de nouveau nous traîner, alourdis du poids meurtrier. On mourait toujours. Les porteuses, maintenant, étaient moins nombreuses que les fardeaux. Nous portions un cadavre et nous enjambions 2 cadavres, et nous nous heurtions terrifiés à 2 cadavres. La cité était une cité de mort. 2 cadavres, partout des cadavres. Dans les salles, dans les galeries, dans nos provisions, des milliers de cadavres. Et parmi ces cadavres qui encombrent toute la ville, 5 ou 6 vivants qui courent, chargés chacun d'un cadavre et qui bondissent affolés et qui cherchent à éviter les cadavres inévitables et qui, lorsqu'ils rencontrent un autre vivant, le regardent avec des yeux hagards, injectés, hostiles à force de douleur. Et voici, les vivants se sont tous rencontrés en un même point, près de la porte fermée. Chacun abandonne le corps qu'il portait et dans une folie faite d'horreur, ils se jettent les uns sur les autres, se frappent furieusement, se déchirent, vont se tuer. Encore 1 minute et la cité si vivante il y a quelques jours ne sera plus qu'un vaste tombeau fermé sur des morts. Le combat de folie cesse, car une lumière brutale de soudaineté nous aveugle. L'écran enlevé laisse le jour traverser la feuille de verre. Et l'homme, l'horrible tortureur, regarde avidement tous nos maux. Il prend notre cage, ouvre le châssis par le milieu, comme un géant séparé en deux moitiés un immense palais. Son geste dévastateur a démoli la ville, éventré cases et galeries, et maintenant, devant ses doigts qui veulent nous saisir, parmi les décombres croulants, éperdument nous fuyons. L'une après l'autre, il nous a saisis. Il nous a mises dans une boîte toute semblable à la première avant nos constructions. Elle est vide, elle est nue, sans abri, sans provision, mais aussi elle est toute neuve, toute fraîche. Au sortir de la cité empestée, elle nous semble à peine malodorante. Elle porte seulement l'odeur des doigts humains, si suffocante à nos organes sains, presque inaperçue par notre odorat que le charnier surmena. Et la boîte est posée, entrée ouverte sur la table, où déjà nous eûmes un promenoir. Nous sommes 6 survivantes seulement. Mais dans notre nouveau domaine, l'homme introduit des étrangers en nombre égal, 6 de ces petites Lasius dont jadis nous volâmes les pucerons. Sans doute l'homme veut se donner le spectacle d'un combat. Les Lasius sont faibles et lâches. Nous les tuerions facilement. Mais à quoi bon? Y a-t-il encore des patries? Y a-t-il encore des instincts de haine après tant d'horreurs traversées et devant l'horrible avenir que nous prévoyons, morne désert où ne sourit aucun oasis d'espoir? Les petits Lasius, dans un coin, se serrent tremblants, prêts à se défendre un peu, prêts à accepter bientôt la mort en une indifférence farouche. Quelle torture leur a-t-on imposée à eux aussi, sous prétexte d'expérience? Quand ils voient qu'on ne cherche pas à leur faire du mal, ils osent remuer. Peu à peu, ils approchent, timides, viennent mettre leur bouche contre notre bouche, nous offrent de la nourriture. Nous leur parlons, ils répondent, mais les deux langues sont trop différentes. Nous ne comprenons pas les réponses qu'ils font à nos questions incomprises. Ils nous regardent continuellement, guettent nos besoins, nos désirs, accourent, complaisants, dès qu'ils croient deviner. Des jours passent et des nuits, mortellement monotones, sans avenir, sans but, sans fatigue. Les serviteurs nous épargnent tout effort, nous immobilisent dans un ennui de plus en plus étroit. Le temps change au dehors. Nous sentons vaguement que les verdures doivent dresser vers le ciel leur lente noirceur joyeuse, que la terre doit chanter, pour la vue et pour l'ouïe de tous les êtres libres, la vaste chanson du renouveau. De cette joie lointaine dont tant de choses nous séparent, nous vient cependant une excitation, un inquiet désir de vivre. Nous marchons un peu plus et toujours à la limite de notre domaine. Nous nous promenons mélancoliques le long du fleuve circulaire. Hélas, notre bourreau arrive. Rentrons jusqu'à son départ. Entre nous et la ville, il met 6 amazones et il attend. Les grands barbares roux, étonnés d'abord et dépaysés, regardent autour d'eux. Les Lasius nous oublient, courent servir les nouvelles venues. Je comprends maintenant les manières serviles de ces petits êtres. Ils étaient depuis longtemps esclaves des Amazones. Celles-ci ont faim, elles mangent. Je dis à Hannibal, repues, elles nous tueront. « Non, dit-elle, nous n'avons pas d'enfants à voler. Elles ne nous attaqueront pas. Peut-être serons-nous obligés de servir ces géants stupides, mais c'est nous qui les tuerons, l'un après l'autre, pendant leur sommeil. » La peur me fit frissonner, et aussi l'espoir du meurtre. Et mon cerveau gauche vit un petit Ulysse perdu, tremblant et souriant, parmi six énormes Polyphèmes. Je sentis une brusque douleur étrange et qui occupait tout mon corps, soudain immense, une douleur de dilatation folle, une douleur d'éclatement. Et, homme tout à coup, je me trouvais debout sur la table qui était un guéridon et que mon poids fit tomber. Un geste malheureux enfonça ma main dans la feuille de verre qui couvrait la fourmilière artificielle. Je la retirai toute sanglante des débris enfoncés dans la chair. Comme je me relevais, une femme entra, ma femme, et elle dit « Octave, qu'est-ce que ce bruit? Tu m'as fait peur !» Puis, voyant ma main, « Oh, mais tu t'es fait mal !» Avec de l'eau qui était dans un broc, sans doute pour renouveler le fleuve circulaire, empêcher l'évaporation de délivrer les fourmis, elle se mit à laver les plaies. J'avais peu de mal. Je pus bientôt échapper aux soins de Madame Octave Péditan, rester seul dans cette chambre où j'avais été quelques mois une fourmi prisonnière, où j'étais redevenu un homme. À force de recherche, je retrouvais toutes les fourmis, les six Amazones, je m'empressais de tuer ces vils esclavagistes, les six Lacius, et, ce qui m'étonna d'abord, les six Phaedrogastères. Mais comment le nombre restait-il complet après mon involontaire désertion? Un instant de réflexion me fit comprendre. Au moment même où je redevenais Octave Péditan, la fourmi qui m'avait remplacé dans la vie humaine reprenait sa forme primitive. Il est probable qu'elle n'avait pas conservé, elle, pendant son année d'exil, sa pensée ordinaire. Et j'ai souvent songé aux sentiments nostalgiques qui poussèrent cette fourmi devenue homme à étudier les fourmis. J'examinais longuement mes compagnes de tout à l'heure, essayant de les reconnaître, n'y parvenant pas. Laquelle était Hannibal, si prudente dans le conseil, si habile et si brave dans l'action? Laquelle Aristote, géniale et bonne? Aristote qui m'avait rendu tant de services? Aristote qui, un jour, sous le fraisier funèbre, me sauva la vie? Je mis ces pauvres insectes dans une éprouvette. Je les rapportai à Chambrancon, au nid abandonné. J'y apportai également à Phaénogastère et Lazius, puisqu'ils vivaient en bonne intelligence, et parce que la communauté était bien pauvre de mandibules pour l'entretien de la ville et les autres besognes nécessaires. Je conserve à cette fourmilière un amour patriotique qui m'a fait commettre des crimes envers d'autres fourmilières. J'ai cherché le nid des Amazones qui nous forcèrent à la fuite, nous précipitèrent parmi tant de malheurs. J'ai détruit le repère et tué toutes les guerrières. Après avoir rendu la sécurité à mes amis par le massacre des Amazones, j'ai cherché un autre nid d'Aphaénogastère. J'y ai volé des œufs, des nymphes, des larves, deux pondeuses. J'ai porté le tout à Hannibal et à Aristote. Pour que mes douces protégées aient le temps d'élever cette nombreuse famille, je leur porte dans le cratère les grains qui les dispensent de toute moisson. Je suis fier de repeupler ma ville. Je reste des heures à contempler mes compatriotes, à me désoler d'être exilé par ma taille. Quelquefois, je saisis une fourmi, j'étudie ses antennes frémissantes, ses yeux intelligents, rayonnant dans toutes les directions, et la puissance rapide de ses mouvements. et aussi absurde que si je me courbais pour entrer chez elle, je baisse la voix, ma voix grossière qui peut pénétrer son ouïe comme le chameau de l'Évangile passé par le trou de l'aiguille. Je l'interroge. « Qui es-tu? Es-tu mon ami Aristote? Comprends-tu ce que je fais pour vous? Et m'en es-tu reconnaissante ?» Elle ne me distingue pas d'une autre montagne qui marche sur deux pieds. Elle s'agite, affolée de n'être point libre, tremblante et écrasée. Je la laisse partir. Je la suis d'un long regard nostalgique. Je ne puis plus lui faire connaître mes pensées, ni connaître les siennes. Jamais elle n'entendra ma voix. Et le mouvement de ses antennes m'est obscur comme des caractères chinois qui, devant mes yeux ignorants, un doigt de mandarin dessinerait dans l'air. Et elle voit, cette fourmi qui me fuit dans une terreur, d'autres couleurs que mes couleurs, un autre univers que mon univers, toute une féerie que je ne puis retrouver en mes souvenirs, que je ne puis plus rêver. Hélas, j'ai perdu ma riche pensée, ma riche mémoire, mes riches organes de fourmi. Et tu jouis, fuyant Aristote, de combien de sens dont je n'ai plus aucune idée en mon singulier appauvrissement. Mais un bruit de pas trouble mes méditations. Je me retourne, je me redresse, lancé par le ressort d'un espoir fou, si la fée revenait. Ah, comme je la prierais de me refaire fourmi, pour toujours cette fois, et en m'affranchissant du trouble de toute pensée humaine, de tout souvenir humain. Oui, je la supplierais avidement, car je n'ai trouvé que des compensations trop insuffisantes au riche univers perdu. Le baiser est un si pauvre paradis. La femme est une si irritante femelle. Je me console un peu, songeant à la longueur de ma vie. La fourmi meurt à 8 ou 9 ans, mais une inquiétude me prend. La destinée comptera-t-elle mon année de fourmi pour 1 an ou pour 1/8 de mon existence? L'inquiétude grandit. Je me rappelle un des premiers mots de Madame Pelliton. « Mais qu'as-tu donc? Tu sembles vieillie de 10 ans depuis hier. » Je suis riche. J'ai hérité d'un parent que je ne me connaissais même pas. La fée m'a tenu parole. J'ai fui la sottise administrative, j'ai donné ma démission. J'ai fait bâtir une maison à Chambrancon pour habiter près de ma fourmilière, pour vivre le plus possible en regardant mes amis que je ne reconnais plus parmi l'innombrable population nouvelle. C'est ma seule joie. Ma vie humaine est très malheureuse. J'aime ma femme aussi haineusement que j'aimais la fourmi, Marie. J'ai des jalousies furieuses que je ne puis dire. Elle me répète souvent, « Mais tu as été parfait pendant 1 an. Mais depuis le jour où tu t'es coupé la main et où tu as eu, tout d'un coup, sans que je puisse deviner pourquoi, tant de cheveux blancs, tu es pire qu'autrefois. » Et avec des caresses qui m'irritent, elle supplie, « Redeviens donc le délicieux Octave de cette année où nous fûmes si heureux. » Quand elle parle ainsi, louant mon remplaçant et me blâmant, j'ai de folles envies de la tuer comme je tuais Marie. D'autres fois, je suis tenté de détruire la fourmilière restaurée et d'en massacrer tous les habitants pour tuer mon rival. Non, 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 je ne tuerai pas, ma chère Aristote. Je fuis les hommes. Chaque fois que j'en rencontre un, sa sottise m'apparaît énorme au point de me faire souffrir. Ma seule distraction fut d'écrire ce livre, en songeant malicieusement, On ne me croira point, et on vantera la puissance de mon imagination, quand on devrait blâmer la médiocrité décolorée de ma mémoire. Mais, maintenant que ce livre est fini, que vais-je devenir ?